Shake it, my girl.
Babies,
tell me what you do.
Tick 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 tock. 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 Tick tick tock.
Yeah, tell me something do.
Tock 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 tick.
Babies.
Commence quand vous voulez.
Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Cinématoque de la rentrée. Cinématoque, je vous rappelle, le rendez-vous cinéma sur Canal Sud les vendredis de 14 à 15h. Aujourd'hui, un programme consacré au réalisateur Felipe Barbosa qui est venu présenter mardi dernier au cinéma ABC. Son dernier film et second long métrage, Gabriel et la montagne, un réalisateur d'origine brésilienne que l'on découvrait à Toulouse en 2014 avec Casagrande et une étude de mœurs au sein de la haute société Carioca, doublée d'un examen sensible des rapports de classe et de sentiments entremêlés. Voilà que pour son deuxième long métrage de fiction, le cinéaste retrace un fait divers qui s'est déroulé en 2009, qui a connu un certain retentissement au Brésil et dont le principal protagoniste était l'un de ses amis d'enfance, Gabriel Buchmann, puisqu'il s'agit donc de lui, étudiant en économie, fut porté disparu puis retrouvé mort sur le mont Mulanje au Malawi, au terme d'un long voyage de plus d'un an à l'étranger. Le film de Felipe Barbosa ne fait aucun mystère de ce décès, ni ne spécule sur sa révélation, puisqu'il s'ouvre sur un long et d'ailleurs majestueux plan séquence où des paysans locaux, au cours d'une cueillette, tombent sur le cadavre disposé sous une grotte du jeune homme blanc que les secours avaient désespéré de ne jamais retrouver. La mort, ainsi mise en exergue, s'affirme comme l'origine et la destination d'un récit charpenté comme un tombeau à la mémoire de son personnage. Nous avons pu rencontrer Felipe Barbosa lors de sa venue donc à l'ABC, c'était mardi dernier, et nous avons échangé avec lui autour du film. Je vous laisse découvrir un réalisateur Felipe et puis un personnage Gabriel, Felipe pour son film Gabriel et la montagne.
Felipe Barbosa, tu présentes en avant-première ce soir à l'ABC Gabriel et la montagne, qui est ton second long métrage. Et c'est rien dévoilé que de raconter que c'est né d'un fait divers, mais qui te concerne, avec la disparition en montagne d'un ami, quelqu'un qui t'était proche, et sa disparition se passait en août 2009. Et aujourd'hui, tu présentes donc ce film, et je me demandais si ce personnage de Gabriel, il te hante depuis 2009, ou c'est venu plus tard.
Non, en fait, j'ai l'idée de faire le film. La première fois que j'ai l'idée, c'était pendant les 19 jours, quand son corps était cherché, quand on avait toujours l'espoir qu'il va être retrouvé en vie. Alors, d'abord, je voulais faire un film sur comment il a survécu cette montagne. On attendait qu'il était vivant encore. Et je voulais que c'était. Et mon désir, c'était que lui me raconterait son histoire. Comme il était trouvé mort avec sa caméra, j'étais déjà très touché par les emails qu'il a envoyés de Ouganda à sa famille, parce que moi, j'étais à Ouganda en 2007, alors des années avant lui, pour donner un cours de montage dans un laboratoire de cinéma créé par Amir Nahir, dans l'est de l'Afrique, et pour les jeunes cinéastes de cette région. Et moi, je ne voulais pas quitter, je voulais rester toujours. Et alors, j'ai reconnu cette même joie de cette rencontre avec peut-être nos origines. Un lien qui a un vrai lien intime avec nous. La nourriture, la musique, l'hospitalité, la façon de se bouger. Et j'ai reconnu ces sentiments dans son email tout de suite. J'ai senti que j'avais le droit d'essayer de raconter son histoire. Mas c'était après, pendant le repérage, que je me suis rendu compte que je suis allé alors, après, je suis allé à 2011 pour refaire son voyage. Je me suis invité pour retourner dans ce laboratoire pour donner un cours de scénario pendant une semaine. Comme ça, j'étais là déjà, j'ai pris mon sac à dos et j'ai essayé de refaire son parcours, mais sans cette obsession de rencontrer les vrais personnages qu'il avait croisés. Alors, c'était après, en 2015, que j'ai commencé à rencontrer des gens. Et à chaque rencontre, j'avais plus forte cette sensation que c'était le seul chemin, en fait. C'était une obstruction presque nécessaire pour faire ces films. Ça veut dire de tourner avec les vrais personnages que l'on croisait. Alors, presque tout le monde, les Africains, entre les Africains, sont des vrais personnages. Et alors, j'essaie de reconstruire le récit. Après, encore une fois, j'ai réécrit le scénario d'après ce qu'ils m'ont raconté. Alors, ils ont les points de vue. Ce n'est pas Gabriel. Comme ce n'est pas lui qui m'a raconté l'histoire, ce n'est pas lui qui a les points de vue. C'est soit ses personnages, soit la caméra à la fin qui a laissé des photos. Et aussi, j'ai reconstruit toute son année de voyage, en fait. On avait pas mal d'emails où il racontait à sa famille sur son voyage, mais surtout sur les gens qu'il avait croisés. Alors ça m'a donné une très bonne idée des personnages plus importants de ces récits qu'il fallait chercher, il fallait trouver.
Non, j'allais te demander justement ces personnages, tu les as rencontrés comment? Alors on peut juste replacer, Gabriel part pour une année de voyage. Et toi, donc déjà, tu décides de te concentrer sur les 70 derniers jours qui correspondent à la période africaine. Il n'y avait pas de ouais. Et tu sais qu'il a de l'interaction, puisque c'est aussi sa façon de voyager, d'interagir avec les gens sur place. Donc peut-être que dans les emails, il parle de certaines personnes qu'il a rencontrées. Mais comment ensuite tu arrives à ce qu'ils deviennent des personnages de ton film, quoi. Comment tu les rencontres concrètement? Tu passes des annonces, tu lances, tu mets la famille de Gabriel Ted.
Ça c'est la question, hein. Mais oui, j'ai commencé par Alex Alembe, le premier, les réfugiés congolais qui l'auberge au Kenya. Lui, il était au Facebook, il était déjà en contact avec la famille. À cette époque-là, moi aussi, j'étais au Facebook, alors je l'ai connu au Facebook, c'est ça. Et c'était facile de les rencontrer. Après, lui, Lenny, dans le premier voyage que j'ai fait en 2011, j'ai rencontré une famille au Burundi. Alors, j'ai fait tous les 7 pays d'Afrique où il était pour choisir les 4 que j'allais tourner. C'est une très belle famille, mais finalement, les Burundi étaient en guerre civile quand j'étais en train de préparer le tournage 2015. Alors, ce n'était pas une bonne idée et ça faisait des sens d'aller directement de Nairobi à Arusha, Tanzanie, c'est assez proche. Alors, en 2011, j'avais déjà connu Louis, le dernier guide, c'était le personnage plus important depuis le début pour moi. Dans ce moment-là, je pensais que peut-être le film serait seulement au Malawi, peut-être seulement dans la montagne. Et c'était un grand voyage, le Malawi était son 38e pays et je voulais raconter un peu la voyage aussi. Le voyage, pas seulement la montagne. J'ai un problème avec masculin et féminin ici, non? La voyage, les voyages. Parce qu'en portugais, c'est la voyage. C'est dur, ça. Et après, je suis allé dans des villages, Maasai, qui avaient un nom pareil, assez de Leni, eu acho. Mais ce n'était pas les mêmes. Alors, je descendis au Kilimanjaro pour les faire, d'abord. Pour les faire, j'avais trop peur de Kilimanjaro. Je voulais savoir si je pouvais les faire, d'abord, avant de proposer à une équipe de cinéma, pas une équipe de montagnards, de monter avec moi. J'étais déjà un peu en retard à cause de ce voyage perdu pour essayer de trouver Leni. Alors j'ai monté le Kilimanjaro avec un autre guide, pas lui, pas John Goodluck, parce que je vais trop perdre le Kilimanjaro, comme j'ai dit. Je voulais quelqu'un avec plus d'expérience, tout ça. Alors après que j'ai descendu, j'ai resté dans l'entrée des parcs avec des photos de Gabriel, de John Goodluck, son guide, et j'ai demandé à tout le monde, est-ce que tu le connais? 4 heures après, quelqu'un l'a reconnu, l'a appelé, et 15 minutes après, il était là. Et j'ai fait un essai avec lui, et je l'ai adoré. Et là, j'ai dit, peut-être c'est ça. Alors j'ai appelé Fatima, la mère de Gabriel au Brésil, en lui demandant, écoute, si je pars d'ici à Dar es Salaam, vers l'est de Tanzanie, je pourrais plus revenir pour trouver Lenny. Alors, est-ce que tu peux essayer encore une fois de trouver son contact, quelque chose, un numéro? Elle a passé la soirée en train de chercher, vers 4 heures du mat, elle a trouvé. Elle m'a envoyé un message pour WhatsApp en disant, oui, je l'ai trouvé, elle était bouleversée. Elle m'a donné son numéro, je l'ai appelé, elle était là au Kenya. Alors, j'ai remonté au Kenya et je l'ai trouvé. Et après l'avoir rencontré, j'étais sûr et certain qu'il fallait continuer à trouver les personnages. Et Luke était assez difficile, le camionnier de Malawi, parce que quand je l'ai finalement trouvé, il était en Afrique du Sud en train de conduire son camion. Alors j'ai changé mon billet encore une fois pour l'atteindre. Mais peut-être l'histoire plus magique, c'était celle de Tony Montana, le personnage de Zanzibar, le guide de Zanzibar, qui est un Nigérien. Alors tous les personnages de la deuxième partie du film, c'était généralement plus facile de trouver parce que Christina était là avec lui, la copine. Alors elle m'a raconté qui étaient les gens plus importants, elle m'a donné des pistes, quoi. Même si Rosina avait déjà déménagé, je savais qui elle était, je savais où l'école était. Alors les gens de l'école m'ont donné son coordonnée. Mais Tony Montana, il était un clochard. Alors quand j'étais là, à Zanzibar 2011, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas beaucoup cherché aussi, pour être honnête, parce que je n'avais pas eu cette idée encore. Et alors en 2015, quand j'étais complètement en retard après avoir trouvé Lenny, je n'avais pas le temps d'aller à Zanzibar. Alors, je ne suis pas allé à Zanzibar. Alors, en 2016, je suis rentré pour tourner. Et les premiers jours de tournage à Zanzibar, l'actrice était un peu malade. On a décidé d'arrêter. Et j'étais en face de l'hôtel, en train de penser quoi faire les jours prochains. Et ce mec nigérien s'approche de moi pour demander l'argent. Il m'a dit qu'il était malade, comme l'histoire originale. Et je l'ai regardé et je l'ai dit, écoute, est-ce que tu as connu Gabriel Buchmann du Brésil? Il a dit, bien sûr, c'est mon ami brésilien. Et tu sais qu'il est mort? Il a commencé à pleurer. Et je suis monté à ma chambre et j'ai pris l'iPad avec les photos, c'était lui. Et c'était lui, en fait. C'est la photo que tu vois de lui à la fin, c'est la seule photo qu'on avait de lui, la photo dans les marchés d'épices. Et oui, j'étais très touché dans ce moment, je l'ai dit... Je l'ai raconté très vite, qu'est-ce qu'on faisait là-bas, et je lui ai dit, on va tourner demain, d'accord? Parce que j'avais déjà écrit cette séquence, j'avais déjà coupé le scénario, mais je savais qu'est-ce qui s'est passé avec lui là-bas. Alors on a improvisé des scènes, mais avec le... Il m'a beaucoup aidé aussi, parce que lui, il connaissait... Tout le monde m'a beaucoup aidé, en fait. Tous ces personnages m'ont beaucoup aidé à mettre en scène des scènes qu'on a faites.
Ça ressemble vraiment à une quête dans tous les sens du terme en plus, puisque le film aussi, il interroge beaucoup la figure de le personnage de Gabriel, de ce qu'il était dans sa vie. Il te questionne aussi parce que quelque part, vous êtes proche et il te ressemble. Cette quête, c'est aussi un peu la tienne.
Oui, je crois. Mais par contre... Pendant l'enquête, je me suis dit plusieurs fois, je pouvais pas faire comme ça, je pouvais pas voyager comme ça. Il avait plus de courage que moi pour cette façon de voyager. Mais peut-être le désir d'aller très loin, d'aller jusqu'au sommet, on partage ça, d'aller vers les rencontres. Mais je pense que c'est plutôt les gestes d'aller faire ses films, que c'est un geste de courage peut-être pareil à celle de lui-même, de voyager comme il l'a fait. Parce que, c'est pas normal de tourner comme ça, de proposer une équipe de monter le Kilimanjaro, une équipe de sédentaires parfois, des gens qui ne sont pas du tout sportifs, avec un chef asthmatique. Alors, je pense que les gestes d'aller tourner se communiquent très bien avec son geste de faire cette voyage. Cette espèce de plongée dans un abysse sans savoir exactement qu'est-ce qu'on fait, si le film va marcher ou pas. Mais avec un sentiment que tout le monde partageait, qu'on faisait un travail spirituel quand même, qu'on l'aidait d'une façon ou d'autre de voir son destin, de comprendre ce qui lui est arrivé, d'accepter sa mort peut-être. Parce qu'on était très fidèles au lieu physique, où il était, même les chambres d'hôtel, où il était.
Oui, les vrais, comme oui, un pèlerinage un peu.
Et les vêtements, ouais. ses propres vêtements, sa caméra photo, tout ça. Et tout le monde de l'équipe croyait dans cette idée, avait beaucoup de foi dans cette idée, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et je ne pouvais pas du tout faire sans cette foi.
Oui, non, mais c'est pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire, mais c'est ce qu'on se pose comme question aussi, c'est que la caméra, c'est un outil aussi où on peut prendre en recul. Donc, on se demande si à un moment donné, tu étais que dans le film et à la fois, c'est pas possible. Et que ce film, c'est aussi peut-être un deuil, même si c'est une question qui était très personnelle. Et c'est une façon aussi de le rendre vivant aussi. Enfin, un film, c'est on crée des images qui vont exister à jamais. C'est une façon de lui rendre hommage aussi. Moi, j'ai vu ce film aussi comme un hommage. Et on te sent très présent. Enfin, on sent le réalisateur très présent, qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça donne notre regard et notre lecture aussi au film. On sent quelque chose qui nous échappe. Et ce n'est pas désagréable, ça. Et du coup, comment t'as pu, tu l'as un peu dit déjà, mais dans le tournage, est-ce qu'à des moments tu as été rattrapé par ton propre souffle à toi, ou en gravissant la montagne, ou parce que l'émotion elle était trop particulière? Parce que moi, c'est un film qui m'a parlé du souffle aussi et de l'air, même si moi personnellement, rien que de voir l'altitude, j'ai peur, parce que j'ai peur de manquer d'air. Et à la fin, j'étais un peu comme ça, et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai senti la respiration du personnage, du film, et la tienne aussi. Et ça, quand on voit un film, je trouve ça hyper important de sentir l'intention du réalisateur et là son souffle. Donc est-ce que tu peux dire quelque chose sur ta respiration ou sur ton souffle?
Je pense aussi que cette respiration est dans la musique là, qui Arthur Gillette a composée, un compositeur français de la bande Moriarty. Oui. Il a pris cette idée, je pense. Il a complètement internalisé cette idée que tu as dit des respirations, des souffles, des difficultés de respirer quand tu vas à un eau comme ça. Et pendant le repérage, surtout, j'ai senti des moments d'énormes émotions. Pendant le tournage, moi, j'étais très préoccupé. Je voulais beaucoup que l'équipe, tout le monde, finisse les films vivante, avec santé. On a parcouru pas mal de risques, même, surtout, je pense, dans les montagnes, mais aussi dans les routes, dans la route, c'est dangereux. C'est faire 6000 km dans un camion, une petite équipe, tout l'équipement, tout. Alors j'étais trop préoccupé pour être trop touché. J'étais plutôt les réalisateurs dans ces moments. Mais il y a eu des moments, par contre, que j'étais en larmes. Les premières, c'était la scène avec les garçons chez les Maasai, que j'ai vu Gabriel là-bas. C'était une scène complètement improvisée. Il était en train de jouer avec ses garçons, les comédiens, et on a commencé à tourner sans qu'il s'aperçoit, et dans un moment, j'étais très touché. Après, dans une scène dans les safaris, qui finalement j'ai coupé, qu'il a chanté une chanson que Gabriel aimait, et j'étais, il était derrière moi, j'étais juste à côté des chauffeurs, des Rachid, donc je ne les regardais pas, je les entendais seulement, c'était, j'avais l'impression qu'il était là avec nous, tu vois. Et cette sensation était beaucoup plus présente pendant le repérage, surtout en 2015, quand j'étais... Alors, mon premier contact avec ces personnages, mon premier contact avec ces chambres où il était, avec ces vrais endroits où il était, parfois je sentais quelque chose de très fort et tout le monde était en larmes. Et c'était un peu inexplicable. Mais c'est vrai que les plus belles histoires de ces films sont dehors les films, parfois. Et surtout la dernière histoire, que c'est... Je peux raconter? Et parce que je pense que c'est mieux de connaître cette histoire après avoir vu les films, mais quand même, comme j'ai dit, on a utilisé beaucoup des mêmes vêtements de Gabriel, les tissus Maasai, même la sandale qu'il utilisait, parce que dans la scène des marchés Maasai, on a fait dans la scène une sandale pour lui, mais ce n'était pas confortable du tout. La sandale de Gabriel était beaucoup plus confortable pour lui. Alors, toute la tournage, je l'ai passé avec la sandale, mais on n'avait pas quelques articles comme les gants par exemple. Alors la costume, elle a produit des gants très pareils. Alors les jours avant les dernières, les tournages, et la raison pour laquelle on n'a pas utilisé les gants, c'est parce que il n'avait qu'un, on a trouvé qu'un gain dans la grotte où il était trouvé avec son corps. Et alors, les jours avant le dernier tournage, on a perdu les gants, les costumes, les assistants déco. Alors, le lendemain, quand on est parti pour, jusqu'à la grotte, ça fait 4 heures de marche pour y arriver, l'assistant déco est resté dans le refuge en train de chercher les gants. Mais moi, je ne savais même pas. Ils m'ont caché cette histoire pour me protéger. Quoi. Et 2 heures après, on m'a envoyé un radio pour me dire, écoute, on ne trouve pas de gants, est-ce qu'il peut vous rejoindre? Bien sûr, viens, parce qu'il fait partie de l'équipe. Et je le voulais là avec nous. C'est notre MacGyver, ce mec. Il était très important pour nous. Il avait une solution pour tous les petits problèmes. Il est arrivé, il m'a embrassé, il m'a dit pardon. Je lui ai dit, je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il m'a demandé de rentrer dans la grotte. Dans ce moment, tous les porteurs étaient en train, ils voulaient faire des selfies dans la grotte parce qu'il est devenu un lieu un peu mystique, au Moulange, parce qu'il était trouvé. Parce que les mythes disent que les gens ne peuvent pas être trouvés sauf s'ils ont une âme très pure. Et comme c'est très loin, ils ne connaissent pas cet endroit normalement, les guides, les porteurs. Je leur ai demandé de vider les plateaux parce qu'il y avait déjà les pas partout. Et alors Pedro, il est arrivé en demandant s'il pouvait rentrer dans la grotte. Moi, j'ai dit, bien sûr, vas-y, c'est ton plateau. Il est rentré, il a médité un peu, il est sorti avec les deuxièmes grains de Gabriel, 7 années après. Les vrais deuxièmes grains de Gabriel qui étaient là. Alors, c'était la dernière histoire qu'on a. Et il nous a dit, il veut nous dire au revoir. Et comme ça, on a fini le tournage, ce jour-là.
On a de l'émotion aussi ici. Mais ça rejoint quelque chose pour moi, c'est un film de fantôme puisque qui commence dans un lieu sacré où il y a des esprits, mais de fantôme dans le sens de présence qu'on peut sentir, qu'on peut pas filmer. Mais du coup, vous avez réussi à, par un tour de force comme ça, tu as réussi à pouvoir donner une image à cet esprit par le film, par la fiction. Tu t'en es rendu compte de ça, enfin, que tu allais donner un corps, une enveloppe à quelqu'un qui n'est plus qu'un esprit? C'est le cinéma tout court qui permet ça, de toute façon.
Je n'avais pas du tout formulé comme ça. J'étais pas conscient de faire un film de fantômes. C'était pendant le montage, quand j'ai commencé à montrer les films aux amis pour avoir des feedbacks, que ces mots sont arrivés. Et c'est intéressant parce qu'à Cannes, cette année, il y avait beaucoup de films sur des fantômes, même dans les titres. Et alors, je ne sais pas, c'est plutôt l'intuition, je pense. Mais ce n'était pas quelque chose qui était conscient. Ça qui était plutôt conscient, c'était ce désir de lui aider, d'aider son esprit. Parce que je croyais. Je croyais qu'il ne savait pas qu'il était mort, peut-être. Alors ça, on était très conscients, tout le monde, on parlait sur ça. Finalement, c'est peut-être la même chose, avoir conscience de ça et avoir confiance de faire un film sur un fantôme. J'étais conscient aussi que je voulais faire une fiction parce que je voulais le mettre dans le présent. Je le vois vivant et pas l'avoir dans le passé comme un documentaire. Parce que dans le documentaire, il serait mort toujours. Mais oui, c'est ça.
J'ai un lien un peu bizarre, mais de fantôme à humain. Je veux revenir par rapport à ton film, à Casagrande. Ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est que ce personnage, on n'est pas toujours en adoration avec lui, parce qu'il a plein de contradictions. Et tu as choisi de montrer, alors je ne sais pas à quel point tu as choisi, à quel point c'est toi, à quel point c'est lui. Et bon, je ne sais pas si on a envie de tout savoir, mais en tout cas, on voit qu'il y a une complexité dans la relation quand même entre ces gens, le touriste, bon, le touriste brésilien. Ça parle d'argent souvent dans les relations, on l'entend. En fait, il va nous payer et tout. Et ça n'empêche pas que la relation, elle existe, que c'est, Mais du coup, tu parles aussi de société, et puis quand sa copine arrive aussi, ils en parlent de lui, ce qu'il est en train d'étudier, et que du coup, pour lui, il dit, tu vas pas vivre à la pauvreté en étudiant à Beverly, je crois qu'il dit. Du coup, comment t'as... Enfin, je sais pas à quel point... Je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir,
Mais je peux parler directement sur ça, si tu veux, parce que je pense que c'est très, très bien remarqué par rapport à Casagrande. Moi, je vais pas du tout penser à ça, mais c'est vrai c'est le même rapport, en fait, quand on pense que... je parle beaucoup dans Casagrande de cette contradiction impossible, peut-être, mais j'essaie de la montrer possible, que c'est la contradiction entre l'aliénation et l'affect, l'amour entre Jean et les employés de la maison. Alors, même s'il y a une aliénation, il y a aussi un vrai amour. Et le fait qu'il ne connaît pas la réalité, qu'il est complètement ignorant de la réalité, ne rend pas son amour moins vrai. Et je pense que c'est la même chose chez Gabriel, finalement, parce que je n'avais pas du tout pensé à ça. Alors, je te remercie. Parce que Gabriel, c'est ça aussi. Il peut être si altruiste qu'égoïste. Et le fait qu'il est égoïste, très égoïste parfois, ne rend pas son altruisme moins vrai aussi, c'est ça. Et aussi, il peut être très humble avec tout le monde. Mais par contre, il peut être très arrogant aussi, sûr de lui-même, avec ses idées. Parce que c'est ça, il est finalement un bourgeois, il vient de ces milliers-là, et il y a toujours ce rapport un peu colonialiste qu'il veut faire différent, qu'il veut faire d'une autre façon ce rapport. Il veut reconstruire ça. Mais c'est peut-être plus fort que lui, parce que c'est dans sa peau aussi. Il est toujours un muzungu, même s'il est brésilien. Mais par contre, il y a ça, il y a les Brésils en Afrique. Je pense que ça, c'est intéressant et c'est rare, parce qu'on ne voit pas les Brésiliens beaucoup dans ces parties du monde, parce que c'est très cher d'arriver là-bas. Mais par contre, il y a un lien très intime, culturel, par rapport à ce qu'on mange, ce qu'on danse, à l'hospitalité aussi, une espèce de simplicité de vie. Mais je pense qu'il y a aussi une énorme ignorance sur l'Afrique au Brésil. Et cette ignorance était évidente pour moi au moment qu'il a disparu, parce que la plupart des amis croyaient qu'il était tué, par exemple. Et moi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu arrives à cette conclusion aussi facilement? Pour moi, il y a moins qu'un pour cent des chances que ça doit arriver. Je connais cet endroit, les gens sont magnifiques en général. Alors, j'avais envie aussi d'aider cette image d'Afrique, de faire cette cartographie humaine. Que c'est une cartographie assez simple aussi, qui montre les gens, ils ont, mais cette simplicité, cette hospitalité, cet amour qu'ils ont vers Gabriel, n'empêche pas qu'ils ont aussi des intérêts vers Gabriel, les intérêts d'argent, comme tu as dit, parce qu'un blanc en Afrique, c'est toujours un peu comme un banque, ils veulent d'argent, ils ont le droit de vouloir d'argent aussi, parce que ils ont beaucoup souffert par rapport au colonialisme européen. Et alors Gabriel, il est là en train de dire, mais non, mais j'étais colonisé aussi. Je suis brésilien, je ne suis pas européen. Mais c'est clair dans son visage qu'il a des origines européennes, par contre. Et en fait, il a des origines européennes. Sa famille, de la partie de son père, venait de Belgique et aussi d'Algérie. Alors, il a des origines... de Nord d'Afrique aussi.
Mais du coup, c'est bien aussi que Gabriel ne soit pas qu'un héros. Enfin, moi, j'ai apprécié parce que, en tant que spectateur, on peut s'identifier aussi à cette. À être confronté à une culture différente et tout, et malgré une grande générosité. Mais du coup, cette notion de justement, ils ont un besoin et nous, on n'a pas le même. Mais ce qui n'empêche pas de l'amour. Et du coup, où est le. Du coup, c'est plaisant de voir que t'as pas, que c'est pas un portrait de que d'un héros, en fait. Mais ça le rend vrai, ça le rend très très vrai.
Mais en fait, la média brésilienne, pendant sa disparition, l'a mis comme un saint altruiste. Et les amis étaient un peu étonnés, parce qu'on savait qu'il n'est pas du tout un saint. Alors, sur les deuils, sur qui, dans lesquels vous avez parlé. Je pense que c'était aussi finalement, et ça j'étais pas du tout conscient, mais je me suis rendu compte juste après Cannes, parce que sa mère était là, c'était beaucoup plus, elle était beaucoup plus légère à la fin de la séance, je sens, parce qu'elle était confrontée avec la réalité de son fils aussi.
Sa mère, elle est venue à une séance quand tu l'as présentée à Cannes, sa mère était dans la salle.
Dans la salle, et sa sœur aussi. Et sa sœur était au Moulange avec nous, parce qu'elle a profité de cette occasion pour revoir l'endroit où son frère était. Et ça était très dur. Très, très dur. Oui, mais c'est ça, finalement. Qu'est-ce que je disais exactement? Oui, de la mère. Parce que je pense que c'est plus dur d'accepter la mort d'un saint. Il y a une justice cosmique là-bas qui c'est difficile d'accepter, quoi. Et
au point de vue du film, je trouve, et du scénario, c'est aussi, ça rend aussi une couche supérieure au personnage et à sa profondeur qui a existé, mais je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, moi, dans sa contradiction et rapport aussi à notre vision aussi. C'est pas quelque chose d'idéal et d'idyllique, mais dans ça, il y a des rencontres qui te marquent à vie ou des choses que tu vas faire comme gravir des sommets, etc., qui, pareil, doivent te marquer à vie. Mais ça, j'ai aimé, moi, que tu sois pas... C'est pas langue de bois, mais que tu... On le voit des fois dans des portraits, même de fiction, qu'on va... On va élaguer des choses et on montre que ce qu'on a envie de montrer. Et là, mais à la fois, c'est pas... Il n'y a rien qui est négatif, hein, c'est juste un humain, quoi. Avec, et ça, c'est chouette, je trouve.
C'est ça, finalement. Il n'y a rien de vraiment négatif, non, par rapport à ce qu'on voit toujours au cinéma.
Non.
On est beaucoup plus à l'aise, parfois, de s'identifier avec des tueurs dans le cinéma. Parce que mais c'est à cause des méthodes, quoi. C'est à cause des méthodes d'identification du cinéma américain et tout ça. Et c'est pas à cause des... Alors, quand je lis des gens qui les trouvent insupportables, par exemple, je me demande, mais alors... si on met un Charles Bronson, on est en train de tuer tout le monde, ça va pas être insupportable peut-être pour toi. Alors, ça, c'est un miroir, alors, je pense.
Exactement.
C'est un miroir, parce que ça nous montre qu'on a un vrai problème. Et ce monde est devenu trop violent, trop cynique pour des personnages comme lui, finalement. Et je suis d'accord qu'il peut être insupportable, mais il est adorable aussi. Il est adorable aussi. Et je ne comprends pas les gens qui s'arrêtent dans l'insupportable. Je ne comprends pas du tout. J'espère ne pas devenir comme eux.
Non, en fait, il a la force d'être un personnage qui questionne énormément le spectateur. Jusqu'au dernier geste de partir dans cette montagne en risquant sa vie, quoi, qui laisse le spectateur avec beaucoup de questions. De notre humanité et c'est j'imagine que c'est parce que ce personnage était aussi dense et qu'il t'a accompagné aussi longtemps et ma question, je sais pas si peut-être ça sera ma dernière, c'est comment bon là tu accompagnes encore ce film dans les salles ici en France, tu as peut-être une tournée qui t'attend encore plus grande, plus vaste, mais du coup tu vas aussi bientôt le quitter, quoi, ce film et ce personnage. Est-ce que tu te sens prêt à ça? Est-ce que tu es déjà sur d'autres projets? Ou est-ce que tu penses que ça va être encore quelque chose d'un peu... que tu as envie que ça dure encore un peu?
Je suis content de faire partie de cette tournée. J'aime beaucoup parler sur Gabriel. Parce que c'est une façon de parler sur moi aussi. Et sur des choses qui m'intéressent dans la vie. Mais je pense que je suis prêt. Ça fait beaucoup d'années déjà. C'est un cycle déjà. Alors, c'est le cycle de Day aussi, que c'est fermé un peu, je pense. Ça fait 8 ans. Je pense que 7 ans, c'est bon. Et c'est un bon numéro.
Bonus, ouais, oui. Un bonus d'un an.
Exactement. Et je vais tourner un autre film au sud du Brésil en novembre. Alors, je suis en post-prod maintenant avec mon portable. Pas post-prod, pré-prod. Pré-production, oui. Et c'est un film que je n'ai pas écrit. Ce n'est pas une histoire très personnelle pour moi, c'est plutôt une histoire très personnelle pour les scénaristes. Et je suis très intéressé aussi dans ces mouvements de sortir un peu de moi-même, sortir un peu de ces films thérapeutiques qui sont comme des séances de thérapie. c'est comme la psychanalyse aussi, mais je suis content de pouvoir faire mon métier et être réalisateur. Et oui, c'est un nouveau chapitre qui va commencer tout de suite.
Bah, merci beaucoup. Merci.
Obrigado.
Masa lagi satu-satunya kesuai ya?
Voilà, c'est donc sur ces 5 premières minutes du film Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa que nous terminons cette émission. Je vous rappelle donc que le film sort mercredi prochain, mercredi 30. En salle, il sera projeté à Toulouse à l'ABC. Le 30 août, c'est aussi l'inauguration du festival AfriClap. Ça tombe bien puisque je vous rappelle que le film de Felipe Barbosa se situe donc en Afrique et que AfriClap est un festival qui se consacre aussi cinéma et culture d'Afrique, un festival toulousain. Pour son inauguration, AfriClap propose une séance à UGC Toulouse avec une invitée d'honneur, Mamané, un réalisateur, humoriste et chroniqueur sur Radio France Internationale. Il sera accompagné de Ricky Tribord, acteur et comédien, que l'on a pu voir apparaître dans des films comme Bienvenue au Gondawa. Et puis, bien entendu, vous rencontrerez d'autres professionnels et critiques lors de cette séance d'inauguration. Et je vous donne donc les dates. AfriClap, c'est donc à partir du 30 août jusqu'au 3 septembre dans plus de 10 salles, je crois, de Toulouse. Oui, c'est bien ça. Et puis, bien entendu, nous intéresserons de plus près dans les prochaines émissions à deux autres grands festivals que l'on attend toujours avec la rentrée. Il s'agit donc de Cine España et de Fifi Gros. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de Canal Sud 92.2. À bientôt.